Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Vers un début d'apaisement entre la France et les États-Unis dans le cadre de la crise des sous-marins qui a éclaté la semaine dernière, Emmanuel Macron et Joe Biden se sont parlé et Paris a décidé de renvoyer son ambassadeur à Washington après qu'il en ait été rappelé samedi dernier. La forteresse Australie bientôt rouverte, le ministre du Tourisme australien promet en tout cas la réouverture des frontières d'ici à Noël au plus tard. Et en France, une nouvelle journée intense au procès des attentats du Bataclan, avec les témoignages du chef de la BRI qui a mené l'assaut contre les terroristes, mais aussi celui du commissaire de la BAC, le premier policier à être entré dans la salle de spectacle. Une semaine après le début de ce qu'on appelle désormais la crise des sous-marins, un début d'apaisement entre Paris et Washington. Emmanuel Macron et Joe Biden se sont enfin parlé. Une discussion à l'issue de laquelle la France a décidé de renvoyer son ambassadeur à Washington. Il avait été rappelé à Paris samedi dernier, une première dans l'histoire des relations entre la France et les États-Unis. Et puis, dans un communiqué commun, les deux présidents assurent, sans beaucoup plus de précision pour l'instant, qu'ils vont travailler pour rétablir la confiance entre les deux pays. À Washington, la correspondance de Guillaume Nodin pour RFI.
Une conversation d'une trentaine de minutes qualifiée d'amicale à la Maison-Blanche et à la fin, une liste de points d'accord. Après la semaine qui vient de s'écouler, c'est déjà quelque chose. Ils sont donc d'accord pour dire que des consultations ouvertes entre alliés auraient permis d'éviter la situation, autrement dit, la crise diplomatique entre les deux pays. Cette crise, les deux dirigeants ont apparemment décidé d'y mettre fin en lançant un processus de consultation approfondie pour mettre en place les conditions garantissant la confiance, sans plus de précision. Ce qui est plus précis, c'est que les deux chefs d'État vont se voir en Europe à la fin octobre et que l'ambassadeur de France rappelé pour consultation va rentrer à Washington la semaine prochaine. Plus largement, les États-Unis reconnaissent le rôle stratégique de la France et de l'Union européenne dans la région Indo-Pacifique, ainsi que la nécessité d'une défense européenne plus forte et plus performante pour contribuer positivement à la sécurité transatlantique. C'est exactement ce que la France exprime depuis des mois en tentant de convaincre ses partenaires européens. Désormais, le président des États-Unis le dit aussi avec une nuance. Ce sera en complément du rôle de l'OTAN. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Et en ce qui concerne l'ambassadeur de France en Australie, également rappelé à Paris samedi dernier, rien pour l'instant n'a été annoncé du côté du gouvernement français. En revanche, depuis Washington, Scott Morrison a assuré avoir tenté de prendre contact avec Emmanuel Macron. Il espère pouvoir, comme Joe Biden vient de le faire, s'expliquer directement avec lui. On l'écoute.
I look forward to when the time is right and when the opportunity presents that we will have a similar discussion. Yes, we have, and the opportunity for that call is not yet. But we'll be patient. We understand their disappointment. But at the end of the day, as a government, we have to do what is right for Australia and serve Australia's national security interests. And I will always choose Australia's national security interests.
Le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est montré pour sa part beaucoup moins élégant puisqu'il a en gros appelé les Français à se calmer.
I just think it's time for some of our dearest friends around the world to, you know, prendre un grip about all this and donnez-moi un break because this is fundamentally a great step forward for global security. It's three very like-minded allies standing shoulder to shoulder, creating a new partnership for the sharing of technology.
Et en Australie, il est l'un des rares à critiquer cette nouvelle alliance de l'Australie avec les Américains et la Grande-Bretagne. L'ancien Premier ministre Kevin Rudd, qui avait fait part de ses réserves dans une tribune publiée dans le journal Le Monde un peu plus tôt cette semaine, s'est également adressé à nous, SBS French. Il déplore notamment la façon dont la France a été traitée par l'Australie dans cette affaire et il pense que Scott Morrison a encore beaucoup de comptes à rendre.
He has yet to explain fully to the Australian public and people why it is technically and strategically necessary to move to nuclear-powered submarines. He should have notified the French government. Secondly, he should have notified the French construction company He should have re-tendered the entire project and invited France, the UK and the United States to provide bids.
Voilà, et sur le sujet, Kevin Rudd nous a dit beaucoup d'autres choses. Je vous invite d'ailleurs à vous rendre sur notre site SBS French pour écouter cette interview en intégralité. On revient maintenant en Australie où, en raison de la pandémie de coronavirus, les frontières du pays sont fermées depuis mars 2020. Elles seront ouvertes d'ici à Noël au plus tard, c'est ce que promet le ministre du Tourisme, Dan Tehan. Et malgré les réticences de certains États, comme le Queensland ou l'Australie occidentale, il assure eh bien, que cet objectif sera tenu. Alors, on rappelle à ce sujet que le cap à franchir, c'est 80% de la population adulte vaccinée. Et Dan Tehan, donc, pense que l'Australie est bien partie pour y arriver avant la fin de l'année. C'est ce qu'il a expliqué sur le Nine Network.
The plan is to start with outbound travel, so for Australians travelling overseas, and then what we put in place for inbound travel will be consistent with our travel bubbles. Obviously with New Zealand we're able to do that quarantine free, and it'd be great if we could get that up and running again. And then we're in discussions with the Pacific Islands, Singapore, Japan, South Korea, the US, the UK on what those travel arrangements will look like.
En parallèle, toujours sur la question du coronavirus, le nombre de nouveaux cas reste stable en Nouvelle-Galles du Sud avec 1063 cas positifs annoncés aujourd'hui ainsi que 6 nouveaux décès. Le confinement dans les secteurs de Glen Innes et Orange seront levés ce soir à minuit. Brad Hazard, le ministre de la Santé de l'État, a pour sa part relevé la baisse significative du nombre de nouveaux cas dans l'ouest et le sud-ouest de Sydney, les zones qui avaient été les plus touchées par l'épidémie en cours.
The cases to 8 p.m. last night in Western Sydney were 220. I compare that back to 2 weeks. I picked the 11th of September as a date, and what I found was that there were 444 cases on the 11th of September. So to drop to 220 is actually a really positive indicator. Southwest Sydney last night was up to 294 cases, and again back on the 11th of September was 490. So again, to the people of Southwest Sydney and Western Sydney, you're doing a great job.
Malheureusement pour l'État du Victoria, le bilan du jour est un peu moins encourageant avec aujourd'hui 766 nouveaux cas et 4 décès annoncés. C'est le bilan le plus lourd recensé dans cet État depuis le début de la pandémie. Et à l'image des manifestations violentes qui se sont déroulées ces derniers jours à Melbourne, il y a aussi en Australie des résistances vis-à-vis de la vaccination. Alors pour les faire céder, les autorités du Queensland ont eu une idée. Les personnes qui se feront vacciner dans le nord de Brisbane et dans la banlieue de Logan seront inscrites d'office à une tombola avec à la clé la possibilité de gagner des places pour assister à la finale de la NRL, la Ligue de rugby, finale qui se joue ce week-end. Alors au total, il y a 6000 places à gagner et elles seront offertes aux personnes qui vont se faire vacciner entre aujourd'hui et la date de cette finale. On revient sur l'actualité internationale avec l'Assemblée générale des Nations unies, actuellement donc réunie à New York et qui s'est engagée à lutter davantage contre le racisme à travers le monde. Cette prise de position intervient 20 ans après une déclaration forte sur le sujet, la déclaration de Durban en Afrique du Sud. Les chefs d'État et de gouvernement ont abordé de nombreuses questions, comme par exemple celle des réparations, de la justice raciale ou encore de l'égalité de traitement pour les personnes d'ascendance africaine. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a lui estimé que le combat contre le racisme était très loin d'être terminé.
We are witnessing a troubling rise in antisemitism. We must condemn without reservation or hesitation the racism and discrimination of growing anti-Muslim bigotry, the mistreatment of minority Christians and other forms of intolerance around the world.
On reste aux États-Unis où la polémique enfle à propos des expulsions en cours des migrants pour la plupart haïtiens. Le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a appelé Joe Biden à mettre fin à ce qu'il qualifie d'expulsion ignoble. Pour Olivier Richom, maître de conférence en civilisation américaine à l'université Lyon 2, la majorité démocrate ne sait pas comment se sortir de cette situation. C'est ce qu'il a expliqué à nos confrères de RFI.
ces démocrates sentent bien que ces politiques sont contraires à leurs valeurs et parfois aux promesses qu'ils ont faites lors de leur campagne électorale. Et c'est un casse-tête pour toutes les administrations, qu'elles soient démocrates ou républicaines, cette gestion de crise humanitaire à la frontière créée par notamment le président Trump et continué par Joe Biden. On se sert de la Covid, de la pandémie pour renvoyer les gens plus rapidement. Et donc, en fait, on a un message pour l'instant qui est brouillé. Et ça, c'est très mauvais d'un point de vue électoral, on va dire, pour les démocrates, pour le cycle électoral qui arrive en 2022. C'est pour ça que beaucoup de démocrates sont très critiques. C'est qu'on pourrait avoir une politique qui soit un peu plus humaine, qui surtout soit beaucoup plus lisible pour le peuple américain. On ne pourra pas accepter tout le monde, mais on pourrait quand même avoir des mesures fortes qui permettent un peu que l'électorat démocrate s'y retrouve.
En France, une nouvelle journée intense hier au procès des attentats du 13 novembre 2015. La Cour a entendu les témoignages de Christophe Molmy, le chef de la BRI. La BRI qui a mené l'assaut contre les terroristes du Bataclan, mais aussi le témoignage du commissaire de la BAC, celui qui a été en fait le premier policier à pénétrer dans la salle de spectacle où il a pu abattre l'un des assaillants, et ce quelques minutes seulement après le début des attaques. On revient sur cette journée d'audience avec Pierre Olivier pour RFI.
Le calme du commissaire venu témoigner à la barre contraste avec l'horreur qu'il va décrire pendant près de 2 heures. Arrivé en premier sur les lieux, armé de sa simple arme de service, il prend la décision d'entrer dans la salle sans attendre les renforts. « Il faut y aller », dit-il à son chauffeur. On a poussé les portes en se disant qu'on ne les repasserait peut-être jamais dans l'autre sens, commence-t-il. Dos à la salle d'audience médusée, il décrit ensuite une succession de scènes apocalyptiques. D'abord, celle d'un tapis de corps, parfois sur plus d'un mètre de hauteur dans la fosse du Bataclan. Puis, lorsqu'il parvient à tirer sur un terroriste situé sur la scène, des confettis semblent voler, cela s'avérera être de la chair humaine. À 2 reprises, le commissaire retournera à l'intérieur de la salle, notamment pour extraire des blessés extrêmement lourds à déplacer car leurs vêtements étaient imbibés de sang, explique-t-il. Puis, la voix nouée, le commissaire conclut « On n'avait que notre courage à opposer aux terroristes ». Pierre-Olivier au Palais de Justice de Paris, RFI.
Pour finir, on jette un œil à la météo de ce jeudi en Australie. 25 degrés et quelques nuages dans le ciel de Perth aujourd'hui. Soleil et 20 degrés à Adelaide, 21 degrés à Melbourne, 25 degrés à Sydney où il fait très beau. Idem à Brisbane, tant au niveau du temps que de la température. 27 degrés à Cairns et jusqu'à 34 aujourd'hui à Darwin.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.